Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne. Et au sommaire donc
de cette émission, bah d'abord on va vous parler d'un des plus grands festivals de polar, dont c'est la 8e édition, et même s'il est un peu éloigné des Alpes-Maritimes, ça peut valoir le coup d'aller passer un week-end dans la ville lumière de Lyon, qui pour le coup se drape de beaucoup de noir. Et puis Jacques, après un de tes coups de cœur, on aura la visite d'un de nos chroniqueurs, Jean-Marc Lairer, et en deuxième partie d'émission, une interview pour un polar jeunesse qui m'a vraiment beaucoup plu. Donc le festival dont je vous parlais, il s'appelle Quai du Polar. Comme je viens de le dire, c'est la 8e édition. Cela, ça passe à Lyon. Si vous voulez tout savoir, les détails, ça se passe exactement au Palais du Commerce. Si vous voulez savoir tous les détails, d'ailleurs, je vous dis tout de suite, le site, il est très bien fait et il est immense. Ça s'appelle www, évidemment, Quai du Polar en un seul mot, .com. Et un programme immense, 50, 60 auteurs, je ne sais pas tous compter, l'Amérique à l'honneur, avec des gens comme quelqu'un qu'on n'a jamais rencontré, je crois, en France, enfin, me semble-t-il, hein, Michael Connelly, un des auteurs les plus connus, mais aussi des gens comme Craig Johnson, dont on a parlé régulièrement ces temps-ci, depuis 2 ans, dans notre émission, et je crois que pour la prochaine émission, il y aura la chronique de son prochain livre, c'est J-Box, qu'il y a encore Larry Foundation, dont j'ai parlé,
il y a pas très longtemps.
Voilà, des gens comme Paul Cleave, dont tu as parlé, qui nous vient, lui, tout droit de Nouvelle-Zélande ou d'Australie, ça, Jacques,
Nouvelle-Zélande.
Mais évidemment, ah oui, Thomas H. Cook, là aussi, on en parle souvent, et puis, les meilleurs parmi les Français, quelques-uns des meilleurs, Didier Deninck, Marin Ledin, qui j'oublie.
Ben, Marin Ledin qui sera là tout à l'heure d'ailleurs.
Voilà, ah mais c'était la surprise, ah. Caryl Ferré, il y a aussi Caryl Ferré,
Sébastien Gendron,
Jérôme Leroy, voilà. Et puis plein d'animations, des animations pour le petit, il y a pour les petits, il y a les petits débrouillards pour apprendre la police scientifique, il y a des visites de l'école supérieure de police de Lyon, là où il y a eu les premières polices scientifiques, enfin il y a des dizaines et des dizaines de choses.
Et du cinéma.
Du cinéma, et en particulier... Si vous voulez passer un week-end à Lyon, eh ben, il y a des visites guidées de la ville de Lyon, évidemment, sous couvert d'une petite découverte d'un polar ou d'une petite enquête. Voilà, Jacques, la semaine dernière, nous en étions restés sur un très mauvais jeu de mots, sur le mot sommaire. Eh bien, cette fois, on y a droit.
Donc,
tu vas nous en parler.
Tu as fait ton sommaire, je vais faire le mien.
Voilà.
Avec un auteur qui s'appelle Mehmet Murat Sommer.
Mais je pense qu'on prononce très mal, en
très
fait.
Très probablement. Le roman s'appelle Mort postiche, il est publié au Masque et il est traduit du turc par Valéry Gay Askoy. Non, Aksoy, pardon.
Évidemment.
Donc, vous avez compris, s'il est traduit du turc, c'est un roman turc et même en fait un roman stambouliote, qui se passe donc à Istanbul. Il met en scène Abla, qui est informaticien et hacker le jour et directeur d'une boîte de nuit de travestis la nuit. Alors, je vais vous lire juste les premières lignes pour vous mettre dans l'ambiance. Ce jour-là, je ne sais par quel miracle, j'étais rentré du club à une heure décente et m'étais réveillé de bonne heure. Sinon, je ne me lève jamais avant l'appel à la prière de midi. Je ne m'étais pas encore rasé, ni débarrassé des restes de maquillage de la veille. Je sirotais tranquillement mon café en feuilletant les journaux. Bref, j'essayais gentiment d'émerger.
Voilà, tout de suite compris, il se rase et il se démaquille.
Voilà. Et donc, ce Abla, eh ben, il va enquêter à la demande d'une de ses amies, c'est toujours un petit peu le problème dans ce roman, qui s'appelle Gonul, et parce qu'il y a son voisin, le voisin de Gonul, qui est pharmacien et hétéro, il a été retrouvé mort, certes.
C'est pas tragique non plus,
non.
D'être hétéro. Hein.
Non, non, mais c'est important. Il a été retrouvé mort, tabassé et affublé d'une perruque et d'un rouge à lèvres, outrageusement appliqué. Voilà, c'est pour ça que je précisais qu'il était hétéro. Très peu de temps après, Gonul va être suspecté. Évidemment, c'est sa voisine, il y avait ses empreintes partout, les flics, ils font pas ni une ni deux, ils l'embastillent.
La Bastille à Istanbul.
Oui, c'est une façon de parler.
Ah, métaphore.
Et quand il va y avoir d'autres cadavres, qui sont pareillement assassinés et leur mort mise en scène, ben notre Sherlock drag queen, donc Abla, il va devoir se manier le train, si j'ose dire, d'abord pour sortir Gonul de prison, et ensuite pour trouver le coupable, qui, semble-t-il, en veut d'une façon ou d'une autre aux travestis et autres homosexuels de la ville. Pour compliquer un petit peu l'affaire, Abla va devoir aussi gérer l'arrivée d'un célèbre travelo brésilien qu'il avait connu là-bas à Rio, qui vient faire son spectacle en vedette dans son club. Donc, ça c'est le pitch, c'est un roman vraiment très plaisant, qui est parfois hilarant. Alors le héros, Abla, il a pour modèle Audrey Byrne, ce qui ne cache rien bien évidemment, même si pour les besoins de ses investigations, il joue aussi parfois le rôle de George Peppard. Évidemment,
on là, fait allusion. Il faut faire allusion à Breakfast at Tiffany. Faut que vous suiviez. Hein. J'espère que vous suivez bien
C'est aussi le film préféré donc de.
Avec Audrey Hepburn et George Peppard.
Alors bon, on se retrouve en fait finalement avec une enquête de facture relativement classique, si ce n'est la qualité et l'accoutrement d'Abla. Évidemment, un Hercule Poirot en barésie et en robe de taffetas, ça change. Le style aussi. Du fait de la nature des personnages, l'auteur peut parler d'une même personne dans une même phrase, tout en changeant son genre. Il est il au début et devient elle après une virgule. Ça donne un petit côté bizarre à la lecture. Et Murat Somer plonge aussi le lecteur dans l'Istanbul interlope, avec des descriptions, faut bien le dire, parfois assez crues. Les scènes où le Brésilien, qui est la caricature de la folle de Rio de Janeiro, qui fait des spectacles, quand il organise dans l'appart de Abla des petites fêtes disco partout, il y a des scènes assez inénarrables.
Croquignolette,
voilà, exactement. C'est mieux, croquignolette d'ailleurs, mais inénarrable aussi. L'auteur, en fait, profite de son enquête et, disons, des réactions que suscite l'accoutrement de ses personnages, leur choix sexuel, pour poser la question donc de l'identité sexuelle et des frustrations et des refoulements qui vont avec.
Et surtout dans un pays musulman,
surtout
je suppose.
Dans un pays musulman. C'est vrai qu'on n'imagine pas ce genre de scène à Istanbul. Ceci dit, il prône une grande tolérance, ce qui n'est pas la moindre des qualités de ce livre. Et en fait, ça se passe à Istanbul, mais on se demande que si ça se passait dans notre bonne vieille France, finalement, si les réactions seraient vraiment bien différentes. C'est sûr qu'ils ne se réveillaient pas à l'heure de la prière du matin, mais ça serait à l'heure de l'Angélus ou de la messe de midi. Ça ne changerait pas franchement grand-chose, à part le Bosphore, évidemment.
Eh oui, il y a encore... et quand le Bosphore... Voilà. Donc, un peu facile. Donc, on va enchaîner, parce que finalement, le temps passe très vite. On va enchaîner sur un petit morceau de musique, Jacques.
Donc, un morceau du dernier album de Bruce Springsteen, qui s'appelle Wrecking Ball. C'est un CD sur, disons, l'Amérique en panne. Comme un des titres, c'est « Land of Hope and Dreams ». Mais en fait, les rêves des Américains ont parfois la vie dure. Mais j'ai quand même choisi, pour pas trop plomber l'atmosphère, une chanson plutôt gay, qui est un des bonus songs...
Après le livre dont tu viens parler, voilà, c'est bien d'avoir choisi une chanson gay.
Non, mais G-A-I-E, parce qu'il faut accorder, parce que la chanson... Donc c'est une chanson qui date de 2006, pardon, qui a été inclue, dans les bonus songs, et elle s'appelle « American Land ».
C'est une idée ou on reparle de Mémé Cornemuse
Non, on va quitter. Non, c'est plutôt une chanson country.
Non, mais il y avait une Cornemuse, non?
Non, pas du tout.
Non, je croyais. Bon, foin de parler musique, Jean-Marc Lehrer, bonjour.
Bonjour.
Bonsoir plutôt. Bienvenue dans l'émission et merci de nous rejoindre une fois de plus. Et pour nous parler aujourd'hui d'un texte assez court d'un des meilleurs stylistes français.
Exactement, puisqu'il s'agit d'une novella, donc ces textes qui se situent entre la nouvelle et le roman de Marcus Malt, que tous vos auditeurs doivent bien connaître, j'imagine. Ce texte s'appelle Canis, et il est publié dans une petite maison d'édition qui fait de l'excellent travail, qui s'appelle Inuit.
Voilà. Il faut, parce qu'on pourrait penser qu'ils sont dans le pôle, mais non.
Non, ils sont du côté de Pau.
Et un 8. Voilà.
C'est un I majuscule, un N et un 8. Voilà. Et donc, ils ont commencé sous la direction de pas n'importe qui non plus, puisque c'est Marc Villard qui chapeaute un peu cette collection, la publication de textes, de ces textes d'une centaine de pages à peu près, qui ont un peu de mal peut-être à trouver des éditeurs, puisque c'est pas des nouvelles, c'est pas des romans, c'est un peu difficile.
Puis-je me permettre de vous interrompre, Jean-Marc, pour rappeler que, entre autres, c'est pas une mauvaise idée d'avoir trouvé Marc Villard, d'avoir demandé à Marc Villard de diriger cette collection, parce que c'est, on peut le dire, l'un des grands spécialistes des nouvelles et des courts textes en France.
Ah oui.
Donc, on peut lui faire confiance pour trouver de beaux textes.
Voilà, c'est un orfèvre. Et il a trouvé, là, pour le deuxième numéro, un autre orfèvre en la personne de Marcus Malt. Alors, ceux qui ont lu Intérieur Nord, qui était paru il y a quelques années, savent déjà qu'il est aussi à l'aise dans ce format un peu court, puisque Intérieur Nord, c'est un recueil de quatre grandes nouvelles que dans les romans, où il a été reconnu et reconnu par le public et la critique.
Et paru chez Zulma, Intérieur Nord.
Oui, exactement. Et voilà donc Canis, qui se présente comme le monologue la narration d'un homme qui souffre. C'est un homme qui vit dans un de ces lotissements où toutes les maisons sont pareilles, sont toutes les mêmes. Cet homme-là, il avait une famille heureuse. Il y avait son épouse, dont il était toujours très amoureux, deux petits garçons. Et puis son épouse est morte d'un cancer. Et depuis, il est désœuvré dans sa maison, il s'occupe de ses enfants, et surtout à travers les canisses qui séparent sa maison de la maison d'à côté qui est en tout point semblable, il observe une famille et qui elle est heureuse parce que l'autre, là en face, il a toujours sa femme et il a toujours sa fille, et la fille, elle a toujours sa mère. Et il se demande pourquoi le malheur s'est abattu sur lui et pas sur ceux d'en face, quelle espèce de justice a décidé ça? Et puis surtout, il se rappelle que quand ils avaient visité les deux maisons, ils avaient longtemps hésité entre les deux. Il se demande si finalement il finit par glisser. Là, il se demandait si l'autre en face a pas pris la maison qui lui revenait à lui, enfin qui leur revenait à eux, plus exactement, puisqu'il parle toujours, il pense toujours à eux en termes toujours de famille, même si sa femme n'est toujours plus là. Et on voit, voilà, dès le premier chapitre, déjà, Marcus Malt vous prend aux tripes dans le désarroi et la détresse de cet homme. On commence par ressentir cette détresse et on voit tout de suite, parce que avec une écriture qui semble plate et qui semble normale, on voit qu'il y a une petite fêlure dans cette détresse. Et puis cette petite fêlure, au fur et à mesure qu'on avance, elle va se faire fissure et elle va se faire crevasse à la fin, parce que la douleur, ça, contrairement à ce que pensent certains, peut-être que dans la douleur rend plus fort, la douleur, ça rend méchant, ça fait mal, ça rend fou. Et ça, voilà. Et donc, c'est ce glissement vers la folie qu'on va observer aux premières loges, puisqu'on est dans la tête de cet homme. C'est à la fois fait très très finement. Pour ceux qui connaissent Marcus Malt, c'est pas une surprise. C'est à la fois très fin et très très émouvant. C'est rude. Il n'y a pas de grandes envolées. Il n'y a pas d'effet de manche, il n'y a rien de tout ça, il y a juste, on suit cet homme, alors on le voit s'enfoncer dans ce sable mouvant de la folie jusqu'à une fin qu'on devine qui ne sera pas très jolie, voilà.
Forcément.
Voilà, donc c'est une fois de plus, la dernière fois je vous avais parlé d'un roman qui n'était pas gay, là je recommence.
Oui. Non mais en général, malheureusement, heureusement, parce qu'on parle toujours de très bons textes et de très bons romans, mais c'est souvent des romans très noirs, donc
Bon alors si j'ai un tout petit peu de temps...
Oui.
je vais peut-être vous conseiller ici après ça, si vous pouvez vous faire un grand plaisir, peut-être que vous en avez déjà parlé, moi je conseillerais de lire le texte d'un monsieur qui nous a quittés depuis 3 ans, et c'est Demandé au perroquet de Richard Stark, alias Donald Westlake.
Vous faites c'est tout la série. Très bien d'en parler, parce qu'on n'en parlera pas, il y sera dans notre fanzine qui sera bientôt en vente, mais c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup plu par à la fois la constance de cet auteur à parler de ce par cœur de la même manière, et puis il y a quand même une originalité, je trouve, dans ce roman.
Bah, il y a un peu d'humour qui vient.
Voilà, et puis de la psychologie.
Oui, chez les Stark, hein, chez Parker. Parker, voilà. c'est l'envers de Dortmunder, donc c'est le négatif, c'est celui qui est très efficace dans tout ce qu'il fait, n'a aucune pitié, disons, c'est une espèce de survivant ou de prédateur parfait, qui fait toujours le bon choix et le bon geste pour se tirer d'affaire. Et puis, s'il faut tuer, il tue. S'il n'y a pas besoin, il tue pas. C'est pas méchant.
C'est simplement un bon professionnel.
Un excellent professionnel. Et là, il se trouve dans une situation qui va de mal en pis. C'est à la fois toujours aussi jouissif dans la maîtrise du style de Star qui est hallucinante par moment.
Donald Westlake, puisque c'est un de ses pseudos.
Oui. Mais là, autant il s'amuse à broder chez Westlake, autant chez Stark, on sent que si on enlève un seul mot, il y a tout qui s'écroule. Et en plus, il a réussi à rajouter un peu d'humour.
Ouais, tout à fait.
C'est vraiment excellent. Et il joue beaucoup avec son lecteur, qu'il sait que son lecteur connaît le personnage. Et du coup, il y a beaucoup de choses qu'il n'a plus besoin d'expliquer. Et ça, c'est aussi très, très jouissif sentir cet auteur qui fait confiance à son lecteur et qui joue avec lui.
Alors ça s'appelle Demandez au perroquet, c'est chez Rivage Thriller. Ouais. Et vous faites très bien de parler de ce livre-là parce que, en passant de fil en aiguille, cet ouvrage est, je trouve, très bien traduit par Marie-Caroline Aubert.
Exactement.
Et ce qui me fait penser, on aurait pu y penser au début de cette émission, que Marie-Caroline Aubert nous avait fait connaître un auteur, nous a fait connaître, il n'y a pas si longtemps que ça, un auteur qui vient de disparaître et qui nous avait beaucoup, beaucoup enchanté, un auteur américain qui s'appelle William Gay, qui est mort il y a 2-3 semaines, qui est décédé, et dont la mort au crépuscule avait été un grand, grand plaisir de lecture. Donc voilà, on lui dédie cette partie d'émission à William Gay, parce que voilà, c'était un livre qui était paru au Masque et qui, je crois, va ressortir, ou est ressorti dans une collection de poche.
C'est possible, j'ai pas suivi cette actualité-là.
Voilà. Jean-Marc, merci beaucoup. À très bientôt pour un nouveau coup de cœur.
Exactement.
Et puis bonsoir, bonne soirée.
Bonne soirée à vous. Au revoir.
Au revoir.